Audiolib présente « À même la peau » de Lisa Gardner. Traduit de l'anglais par Cécile Deniard. Lu par Colette Saudoyer. Prologue. Un bébé dans un berceau, dans un arbre tout en haut. Le cadavre n'était plus là, mais l'odeur était restée. Didi Warren, enquêtrice de la brigade criminelle de Boston, le savait d'expérience. Ce genre de scène de crime peut puer pendant des semaines, sinon des mois. La police scientifique avait emporté le linge de lit. Mais rien à faire, le sang vit sa vie. Il avait imbibé le placo, coulé derrière les plaintes, s'était accumulé entre les lames de parquet. Près de 5 litres circulaient autrefois dans les veines de Christine Ryan, 28 ans. À présent, la majeure partie imbibait le matelas nu au milieu de cette chambre sinistre et grise. Se balance au gré du vent. La demande d'intervention était arrivée peu après 9 heures du matin. Midge Roberts, une bonne amie de Christine, s'inquiétait parce que la jeune femme ne répondait ni au coup frappé à sa porte, ni au texto. Christine était pourtant une fille responsable. Elle n'avait pas de panne d'oreiller, n'aurait jamais fugué avec un séduisant barman, n'aurait pas attrapé la grippe sans en avertir sa grande complice qui passait tous les jours la chercher sur les coups de 7h30 pour qu'elle fasse ensemble le trajet jusqu'à leur cabinet comptable. Midge avait contacté d'autres amis. Partout le même son de cloche. Pas de nouvelles de Christine depuis le dîner de la veille. Cédant à son instinct, Midge avait fait venir le propriétaire, lequel avait finalement accepté d'ouvrir la porte. Avant de vomir dans le couloir de l'étage à la suite de sa découverte. Midge n'était pas montée. Elle était restée dans l'entrée de la petite maison. Comme elle l'avait expliqué à Phil, le coéquipier de Didi, elle savait déjà, d'instinct. Sans doute que, même à cette distance, elle avait senti les premiers relents, l'odeur du sang à moitié sec, reconnaissable entre toutes. Un bébé dans un berceau. À son arrivée, Didi avait aussitôt été frappée par le caractère violemment contrasté de la scène. La jeune victime, couchée en étoile sur le lit, fixait le plafond de ses yeux bleus, désormais sans vie. Une impression de sérénité se dégageait de son joli visage. Et ses cheveux châtains mi-longs formaient une masse soyeuse sur l'oreiller d'une blancheur éclatante. Mais en dessous du cou, la peau avait été décollée de la chair en fine lanière torsadée. Didi avait déjà entendu parler de telles atrocités. Mais à 11 heures du matin ce jour-là, elle avait eu l'occasion de voir de ses propres yeux une jeune femme écorchée dans son lit. Une bouteille de champagne posée sur la table de chevet et une rose rouge en travers de l'abdomen sanglant. À côté de la bouteille, Phil avait trouvé une paire de menottes, de celles qu'on peut se procurer dans les sex-shops haut de gamme avec de la fourrure pour le confort. Entre ces menottes, le vin mousseux, la rose rouge. Un rendez-vous galant qui avait mal tourné. C'était la théorie de Phil. Ou, vu le degré de violence, l'ultime vengeance d'un amant éconduit. Christine avait rompu avec un triste sire, et celui-ci était revenu la veille au soir. Histoire de montrer une fois pour toutes qui était le chef. Mais Didi n'était pas convaincue. Certes, il y avait des menottes, mais pas au poignet de la victime. Oui, il y avait une bouteille de champagne débouchée, mais les flûtes étaient propres. Enfin, d'accord, il y avait la rose, mais sans emballage cadeau du fleuriste. L'ensemble lui semblait trop prémédité. Il ne s'agissait ni d'un crime passionnel, ni d'une brouille entre adultes consentants. Plutôt d'une mise en scène soigneusement calculée et dont la conception et la préparation avaient dû exiger des mois, des années, peut-être même toute une vie. Pour Didi, il n'avait pas sous les yeux une simple scène de crime, mais le plus intime et le plus ignoble des fantasmes d'un tueur. Et même si c'était le premier homicide de ce genre sur lequel ils enquêtaient, il y avait de fortes chances qu'un crime obéissant à un rituel aussi précis ne soit que le début d'une longue série. Au gré du vent. L'équipe de Didi, les techniciens de scène de crime, les services du légiste et une armée d'enquêteurs divers avaient travaillé sur place pendant 6 heures. Ils avaient procédé aux constatations et aux relevés d'empreintes, tracé des diagrammes et débattu jusqu'à la tombée de la nuit, heure à laquelle les esprits s'échauffent et où les bonnes gens rentrent dîner chez eux. En sa qualité de directrice d'enquête, Didi avait finalement renvoyé chacun avec instruction de reprendre des forces. Demain était un autre jour. Il pourrait interroger les bases de données fédérales pour savoir si d'autres meurtres correspondaient à ce descriptif. Établir le profil psychologique de la victime et du tueur. Beaucoup de pain sur la planche, de nombreuses pistes à explorer. En attendant, ordre d'aller se reposer. Tout le monde avait obtempéré, sauf Didi, naturellement. Il serait bientôt 22 heures. Elle aurait dû rentrer chez elle, embrasser son mari, jeter un coup d'œil à son fils de 3 ans, déjà couché à cette heure tardive. Se préparer pour une bonne nuit de sommeil au lieu de traîner sur une scène de crime, toute lumière éteinte, avec la comptine préférée de son bout de chou dans la tête. Mais elle n'arrivait pas à s'y résoudre. Un mystérieux instinct, le flair, l'avait ramenée dans cette maison trop tranquille. Ses collègues et elle avaient passé le plus clair de la journée à discuter du spectacle qui s'offrait à leurs yeux. Désormais, postée dans le noir au milieu d'une chambre où flottaient des effluves de sang, elle guettait les informations que ses autres sens pourraient lui apporter. Un bébé dans un berceau. Christine Ryan était déjà morte quand l'assassin avait pratiqué la première incision, d'où l'absence d'expression torturée sur son visage pâle. La victime avait connu une fin relativement douce. Et tandis que son cœur émettait ses ultimes battements, le tueur avait donné un premier coup de lame verticale dans son flanc droit. L'objectif de ce meurtre n'était donc pas de faire souffrir. Plutôt, sa mise en scène, la composition du tableau, le rituel lui-même. Leur assassin était animé par le besoin compulsif d'écorcher sa victime. Peut-être avait-il commencé dès l'enfance sur de petites bêtes, des animaux de compagnie, et quand par la suite le fantasme avait refusé de lâcher prise. Le légiste chercherait d'éventuels signes d'hésitation, si toutefois il était possible d'examiner la régularité des découpes dans ce monceau de fines guirlandes de peau, ainsi que des preuves d'agression sexuelle. Mais là encore, Didi n'arrivait pas à se défaire d'un sentiment de malaise. Ces éléments étaient ceux qui se présentaient au regard de l'enquêteur. Or, en son for intérieur, Didi soupçonnait déjà qu'il s'agissait d'une fausse piste. Justement celle sur laquelle le tueur voulait les lancer. Se précisa alors l'idée qui lui trottait dans la tête. Cette question essentielle qui méritait réflexion et qui l'avait conduite à se retrouver là, dans le noir. Pourquoi une mise en scène ? Pourquoi pousser aussi loin le souci de la composition, sinon pour manipuler le spectateur et l'amener à voir exactement ce que vous voulez lui faire voir ? Un bruit, au loin. La porte d'entrée, ouverte avec précaution. Le craquement de la première marche sous un palourd. Le gémissement d'une lame de parquet au bout du couloir. Encore un bruit, lointain tout à l'heure, plus proche à présent. Et en un éclair, le commandant Didi Warren comprit ce dont elle aurait dû se rendre compte un quart d'heure plus tôt. La berceuse préférée de Jack, cette comptine qu'elle fredonnait, elle ne résonnait pas seulement dans sa tête. Quelqu'un d'autre la chantonnait, tout bas, à l'extérieur de la chambre, ailleurs dans la maison de la morte. Un bébé dans un berceau, dans un arbre tout en haut. Didi porta précipitamment la main à son arme, ouvrit son étui d'épaule, dégaina son Sig Sauer. Elle fit volte-face et s'accroupit, fouillant du regard les recoins de la pièce, à la recherche d'un intrus. Aucun mouvement dans le noir, aucune silhouette ne surgissant de l'ombre. Mais alors, elle entendit de nouveau le parquet grincer dans une autre pièce. « Se balance au gré du vent. » Vite, elle sortit à pas de loup dans le couloir sombre, arme au poing, Le plafonnier n'était pas allumé. Seules les fenêtres laissaient entrer des ombres projetées par la lueur des maisons voisines. Un camaïeu de gris dansait sur le parquet. Elle connaissait cette maison, se rappela-t-elle. Elle avait déjà parcouru ce couloir, prenant soin de contourner les flaques de vomi pendant qu'elle relevait les détails pertinents. Arrivée en haut de l'escalier, elle jeta encore un regard à droite, un regard à gauche, puis scruta l'abîme de ténèbres au pied des marches. On ne fredonnait plus. Pire que cela, le silence absolu. Enfin, de l'obscurité, monta une petite voix mélodieuse.
Un bébé dans un berceau, dans un arbre tout en haut.
Didi s'immobilisa. Par réflexe, elle lança des regards de tous les côtés, cherchant à localiser l'intrus. Et la chanson continua, lente et moqueuse.
Se balance au gré du vent.
Elle comprit ce qui se passait et sentit son sang se glacer dans ses veines lorsqu'elle arriva au bout de son raisonnement. Pourquoi une mise en scène? Pour avoir des spectateurs. Peut-être même une spectatrice bien précise. Disons une enquêtrice accro à son travail et assez idiote pour se retrouver seule à la nuit tombée sur une scène de crime. Elle saisit son portable. Un nouveau bruit se fit entendre, juste derrière elle. Elle se retourna, les yeux écarquillés. Une silhouette jaillissait de l'ombre, fonçant droit vers elle.
Si la branche casse, le berceau tombera.
D'instinct, Didi recula, oubliant qu'elle se trouvait au sommet de l'escalier. Son pied gauche, cherchant un appui, ne rencontra que du vide. Non ! Elle laissa tomber le téléphone, leva son Sig Sauer, essaya, trop tard, de se pencher en avant pour se rétablir. Mais l'ombre tendit la main vers elle, et Didi bascula en arrière, dans une dégringolade sans fin. Au dernier moment, elle appuya sur la détente, réflexe d'autodéfense. Boum, boum, boum. Mais elle savait que c'était inutile. Sa tête heurta une marche en bois, un craquement, une douleur fulgurante, la fin de la berceuse murmurée dans la pénombre.
Tomberont bébé, berceau et le reste.